À voix nue. Toute cette semaine, Jean-Michel Dian rencontre Barbara Hendrix. Ce soir, fille d'un pasteur de l'Arkansas.
Plus de 14 millions d'albums vendus dans le monde, des milliers de concerts, opéras et récitals avec les plus grands chefs. Barbara Hendrix aura, depuis plus de 40 ans, interprété aussi bien Mozart, Schubert et Mahler que Poulenc, Gershwin ou Duke Ellington. Son œuvre est universelle, de même que ses engagements pour la justice et la paix. Cette femme n'est pas seulement une artiste, elle est aussi une grande dame. Barbara Hendrix, qu'est-ce que vous gardez de votre enfance aujourd'hui ?
Je crois que c'est cette enfance qui est en effet la force en moi. Je dis d'être née avec mes pieds vraiment dans la terre rurale de Arkansas, que vous dites Arkansas, oui. Je dis pauvre sans le savoir, parce que c'était mes parents qui n'avaient pas beaucoup de moyens, mais riche en beaucoup de choses. D'abord, les souvenirs de mes premiers souvenirs de chants dans l'église de mon père, je dis dans les églises au fond de nulle part, qui sont très forts dans les revivals, je dis que c'était des meetings religieux qui pendant 2-3 jours, pendant un long week-end, le chant aussi, les gens. Moi, j'étais petite et pour moi, la différence en taille des gens et moi était énorme. Mais aussi, c'était la même chose avec leurs émotions et qui m'a beaucoup marquée, mais qui est aussi plus âgée de réaliser que j'étais née dans une situation d'apartheid.
Vous êtes fille de pasteur. Qu'est-ce que ça veut dire être fille de pasteur, sachant que votre père était déjà quelqu'un de reconnu comme un homme très charismatique? On venait pour ses sermons de tout l'Arkansas, même d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être fille de pasteur dans les années 50?
Bon, il faut dire que la répétition des enfants de pasteurs, c'est que nous ne sommes pas les plus religieux, nous sommes plutôt, j'étais assez rebelle, parce que j'avais envie de croire des choses que j'ai apprises à l'église avec lui, mais je cherchais vraiment une intégrité, vraiment qui dans tout ça. Moi, je voulais voir, pas seulement entendre, mais voir les actions qui étaient les mêmes. Et des fois, je trouvais un peu de... Bon, j'ai dit faiblesse de l'être humain, mais pour moi, adolescent, c'est l'hypocrisie. Je dis, voilà, on peut prêcher l'amour et tout ça, mais après, de juger quelqu'un si sévèrement, comme j'ai entendu des fois ma mère faire. Et bon, j'avais la possibilité d'avoir une certaine éducation qui m'attirait aussi, cette éducation du Christ qui faisait pour les pauvres, pour les plus faibles, qui était là. Et pas pour ceux qui avaient la force, qui avaient le pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Mais j'ai vu que dans la vie, c'était pas facile de vivre selon ce qu'on avait pris. Et que moi, je jugeais, moi, assez sévèrement, les gens autour de moi qui ne pouvaient pas le faire, qui voulaient rester dans le jugement des autres. Et pas dans cet amour que je trouve, même aujourd'hui, l'amour, c'est la chose la plus importante au monde pour faire face à des difficultés de la vie.
On a le sentiment qu'à l'Église, dans ce monde religieux qui caractérisait cette famille, vous avez toujours gardé l'ultime distance avec la religion, même enfant.
Oui. Bon, j'étais pas du tout conscient, enfant, que j'avais ça, mais plus tard, quand je commençais de regarder ça, oui. Je dis, une distance de, parce que ce qui m'intéresse, c'est la vérité, la recherche de la vérité. Et je crois qu'il y en a besoin d'avoir un peu de distance pour voir ce qui est vrai, ce qui est vraiment émotion, ce qui est, on a envie de croire, ce qu'on vit qui est vrai et ce qui est la vérité. Et je crois qu'une partie de ça vient de ma mère qui était institutrice. C'était aussi une envie de connaître, de savoir, d'apprendre. J'ai appris à lire très tôt, à l'âge de 4 ans, parce que je pensais qu'il a des choses très importantes qui se passent. Et si je veux les savoir, ils ne vont pas me dire.
Ça veut dire que vous aviez une oreille à l'extérieur en permanence, chercher un point d'ancrage qui sorte de l'église, de la famille.
Oui. Et je crois que, je vais les trouver dans les livres.
Dans les livres. Oui. Revenons au père, Malvin. Est-ce que la première voix qui vous a touché, est-ce qu'on peut dire que c'est celle de votre père quand il faisait ses sermons?
Oh, je ne sais pas, ça je ne peux pas dire, mais je sais qu'il... Ces sermons étaient très impressionnants. Je crois qu'après, j'ai réalisé, c'était la première fois que j'étais au théâtre. Pas dans le sens que c'était pas, qu'il n'était pas sincère. Mais quand même, il était un sorte d'acteur, de chanteur, c'était un performance, ce qu'il avait fait. Il avait, avec le rythme aussi, avec les dynamiques de ses sermons, et j'étais très impressionnée, petite. Parce que le pouvoir qu'il avait sur les gens.
Et ce pouvoir-là, vous le voyiez s'exercer auprès des fidèles dans l'Église? Est-ce que vous aviez déjà une conscience aiguë de ce que représentait la parole à l'endroit, non pas d'une foule, mais de gens qui sont déjà convaincus?
Je crois que ce qui m'a frappé le plus, c'est que... C'était le fait que les gens avaient tellement besoin, à cause de la difficulté de leur vie, la souffrance, ils avaient besoin de cette communion avec les autres. Ils avaient besoin de dire, dans ma souffrance, dans la difficulté là, de la vie, je ne suis pas seule. Et il a une lumière. Il a quelque chose qui va m'aider de commencer ma semaine avec un peu plus de légèreté. Et ça m'a beaucoup frappé, l'émotion que j'ai sentie, qui venait des gens qui étaient à l'église.
Cette lumière, vous avez conscience d'en avoir hérité un peu?
Non, hérité non, parce que je crois que c'est quelque chose qui est pour tout le monde.
Tout le monde a une lumière?
Oui, tout le monde a une lumière, je crois.
Mais
tout le monde a une voix dedans. Oui, je crois que chaque être humain vibre, a la possibilité de
l'éclairer.
Oui, exactement.
C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement.
Oui, tout le monde ne demande pas de le faire, mais on a tous la possibilité.
Alors cette famille avec frères et sœurs, la mère institutrice, le père pasteur. Quel souvenir gardez-vous là aussi de ces moments de grâce, comme vous dites dans votre livre « Ma voix » Vous expliquez de manière très chaleureuse cet amour qui traverse cette famille. Et puis en même temps, vous êtes dur parfois avec votre père quand vous mettez à vous rebeller contre lui, quand vous découvrez que les choses sont pas si simples. Comment vous avez vécu cette préadolescence, disons?
Ah, mais heureusement, j'ai pu être enfant très longtemps. Je lui dis, jouer dehors, c'est difficile pour l'imaginer aujourd'hui, on n'avait pas de gadgets. Je crois que même pendant très longtemps, on n'avait même pas de télévision. Ça veut dire pour moi, mes jouets étaient dans la nature. Ah, et j'étais heureuse dans la nature. Et je suis toujours heureuse dans la nature. La nature me ressource beaucoup. Et pour mes souvenirs, c'était d'aller à l'école, j'aimais l'école, d'apprendre. C'est là où j'ai commencé à chanter à l'école aussi, pas seulement à l'église. Et c'était plutôt là à l'école où je commençais d'être un peu reconnue pour le fait que j'avais une voix, pas comme les autres. Mais sur un plan, personne n'a parlé de « Ah voilà, elle a une jolie voix, elle doit faire carrière, elle doit faire... » Parce que aussi, à l'époque, on n'avait pas Star Academy et toutes ces choses-là. Personne n'a heureusement pensé à ça. Mais j'ai quitté un peu juste le domaine qui était de l'église et la maison quand j'étais plus petit. Et parce que quand je chantais à l'église, c'était rien de spécial. Tout le monde chantait, moi je chantais. Et bien sûr, je commençais à chanter un peu plus des solos que les autres. Mais c'était normal, c'était rien de spécial. C'était, voilà, maintenant, il va avoir une grande carrière. Personne ne pensait à une carrière du tout.
Même vous, vous ne pensiez pas du tout faire carrière, évidemment, à ce moment-là. Non.
Mais voilà, j'avais cette enfance qui était simple. On n'avait pas d'argent, mais je n'étais pas pauvre. Et j'étais gay. J'ai dû travailler beaucoup à la maison, d'aider ma mère.
Ami de donner les chemises de votre père aussi.
Oui. Ah, parce que bon, j'avais une sœur qui était assez maligne, parce que quand elle avait essayé de repasser, c'était tellement épouvantable qu'on pouvait pas le porter. Et ben moi, je vais lui montrer comment je pouvais bien faire. Et bon, pendant des années, c'est moi qui fais le repassage. Et après, j'ai réalisé, comment c'est moi qui est le stupide, ma sœur qui était plus intelligente.
Et comment s'est passée cette première rébellion? À cause de quoi exactement avec le père?
Comme je dis, qu'avec... moi, j'ai toujours posé les questions. Qu'est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que ça, c'est vraiment l'amour? De juger une femme qui avait des enfants et qui n'était pas mariée, mais je dis, mais est-ce que Christ aurait exclu de l'Église? Je dis, mais si oui, toutes les choses que j'ai apprises enfant, c'est pas juste. Et bon, comme j'ai posé des questions, et bon, avec adolescence, il avait les hormones et tout, et l'adolescence, quoi, tout court. Là, je commençais d'être un peu plus intéressée dans le monde autour de moi. Parce que j'étais née presque à côté, je dis presque dans l'église, et ma vie très petite, c'est que l'église, la maison. Et après, c'est devenu l'église, la maison et l'école. Et quand je commençais de regarder un peu les actualités, d'élargir mon monde, là, je commençais d'avoir d'autres idées politiques. Et bon, mon père et moi n'étaient pas toujours d'accord. Mais je crois que c'était naturel, ma rébellion. En plus, c'était un peu bon enfant, dans le sens que moi, je prenais pas des drogues, je faisais rien de tout, des choses dont ils avaient peur. Mais c'est plutôt dont je cherchais... pour moi, mon père était, je dis, comme vous avez dit, un géant, parce que je l'ai vu un peu sur scène. Et je crois que ces rébellions étaient aussi, que c'était difficile pour moi d'accepter qu'il n'était pas parfait. Qu'en effet, il n'était pas celui qui était juste à côté de Jésus. Et qu'il était un être humain. Qu'il est un être humain qui avait des doutes, qui, sur ses croyances même. Ce qui est un être humain qui avait des faiblesses. Et quand j'ai quitté la maison pour aller à l'université, voilà, c'était la guerre entre nous. Ouais. Jusqu'à à peu près l'âge de quoi, 22 ans, 20 ans, j'étais à la maison, je ne sais pas si c'était pour Noël ou Thanksgiving, et bien sûr, on n'était pas d'accord. Et bon, je suis partie comme d'habitude, un peu avant la fin des vacances. Quand j'étais plus grand, c'était plutôt pour mes frères, que je me battais pour mes frères. Et je lui dis, bon, c'est pas juste que vous dites, vous êtes trop dur avec eux. Mais dans l'avion, pour retourner à New York, j'ai dit, alors, mais je n'aime pas ça. Et bon, j'ai appelé mon père en arrivant, j'ai dit, mais je suis désolée. Je suis désolée pour ça. J'ai dit, mais je n'ai pas le droit de venir chez vous et de vous faire des jugements, de vous dire comment vous devez être. Et je ne ferai plus ça. Et je n'ai pas fait. Mais je veux dire qu'on n'a pas eu des discussions sur les choses très importantes pour moi, parce que je savais que lui, il n'allait pas comprendre. Et aussi, j'ai aussi compris que des choses, depuis les années, la fin des années 60 et 70, les choses ont bougé trop vite pour mes parents. J'ai vu la différence.
Le monde a changé beaucoup,
oui,
c'est
oui,
ça?
Oui, oui, oui. Et que j'ai vu la différence entre l'éducation que ma sœur et moi ont eue et l'éducation de mes frères. mes parents, comme beaucoup de parents à l'époque, étaient dépassés par les choses qui se passaient très très vite. Et après, j'ai commencé de voir cet homme qui a confronté ses peurs, des peurs, des choses dont j'étais pas au courant parce qu'ils ont caché beaucoup de choses, mes parents, de nous, de leur vie quotidienne, parce que ils habitaient une époque où si on disait quelque chose qu'une personne blanche n'a pas aimé, on se trouvait dans un contretemps, on pouvait être tué. Et là, c'était à moi, déjà, ma génération qui peut. Et je commençais d'apprécier le fait qu'il a gardé un certain fierté. Mon père, moi, je n'ai jamais vu mon père dans un t-shirt. Il était toujours habillé
en pasteur.
Oui, en pasteur, cravate et chemise blanche. Bon, plus tard, quand il était à la retraite, il a un peu laissé
il
ça. Mais moi, à l'enfant, je n'ai jamais vu quand il n'était pas habillé. Mais maintenant, je peux comprendre que malgré ça, il pouvait entrer en ville, être appelé boy, garçon.
Garçon.
Et qu'il devait subir des choses dont il m'a jamais parlé. Et là, j'avais commencé de réaliser qu'en effet, malgré des faiblesses que moi, je jugeais, il avait fait des choses remarquables pour nous donner le plus qu'il pouvait possible.
Au fond, vos parents, votre père en particulier, tentaient de vous protéger au maximum contre les injustices dans lesquelles vous alliez plonger assez rapidement.
Oui, les deux, parce que ma mère aussi, du point de vue d'être fille, m'a aussi dit il faut cette éducation, c'est tellement important parce qu'une femme doit être toujours avoir la possibilité d'être indépendante, de pas être dépendante pour vivre, de pouvoir travailler et c'était très important.
Il y a deux choses importantes qu'on peut retenir de cette enfance et de cette adolescence dont vous témoignez dans votre ouvrage ou ailleurs, c'est le fait que enfant vous aviez peur. Vous manifestiez votre peur, vous ressentiez une peur difficilement exprimable, difficilement même quantifiable, mais vous l'aviez, cette peur. Et puis, la deuxième chose, c'est à l'église, quand vous chantiez, vous dites avoir beaucoup appris de l'esclavage, de l'histoire de l'Amérique à travers le chant. De cela, vous vous souvenez?
Ah oui, c'est surtout les chants des Negro Spirituals qui étaient les chants des esclaves. Qui parlait de la situation en utilisant, je dis, les métaphores de Bible, de Christ, de la crucifixion, mais aussi de le peuple juif. Et là, j'ai compris des choses parce que j'étais trop petite, j'étais pas encore à l'école, de mon histoire. Mais de parler de cette peur, c'est comme de vivre avec une maladie, je dis. Et je dis, c'était là, mais pas toujours, on pensait pas toujours, mais c'est juste, il avait des moments où je dis, mais il y a quelque chose qui va pas. Mais, enfant, ça passait. Ça passait comme ça. Et c'était juste au moment, où on était, c'était le 4 septembre 1957.
Vous aviez 8 ans.
Nous sommes allés, ce soir-là, chez les voisins, pour voir les actualités, parce qu'ils avaient une télévision et on n'avait pas. Et c'est là où, quand j'ai vu les élèves, les étudiants de 14 à 18 ans, il en avait 10 au début, à la fin, 9, qui essayaient de commencer le premier jour de l'école dans le lycée de Central High de Little Rock, Arkansas. À l'époque, j'habitais à North Little Rock, qui était juste deux villes divisées par une rivière. Et alors, j'ai vu la haine, j'ai senti le danger. Et là, pour la première fois, j'ai réalisé que quelqu'un pouvait m'haïr juste à cause de la couleur de ma peau. Et jusque-là, j'étais assez vraiment protégée parce que je dis, ma vie était entre l'église et la maison et l'école et... Et moi, je n'avais pas besoin d'aller en ville. Et mes parents n'ont même pas des moyens d'essayer de manger dans un restaurant où c'était interdit. Voilà, je n'étais pas vraiment au courant. Et c'était une sorte de choc de réaliser ça, parce que je ne pouvais pas comprendre. Mais qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi quelqu'un peut m'haïr quand je n'ai rien fait? Et là, j'ai compris cette peur que j'avais sentie depuis très petite, des fois. Parce que ça pouvait venir des conversations de mes parents que je n'ai pas compris, ou eux, ils ont arrêté quand je suis entrée dans la pièce de parler de quelque chose qui se passait. Et c'était formidable de comprendre qu'est-ce que c'était. Parce que je dis, voilà, il n'y a rien qui va mal chez moi. C'était pas moi. Mais c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, de suivre après le mouvement pour les droits civiques mené par Martin Luther King, Rosa Parks et beaucoup d'autres, qui étaient un moment d'inspiration pour moi.
Votre père connaissait bien l'autre pasteur qui est Martin Luther King à ce moment-là?
Non, parce que Martin Luther King, il était dans l'Alabama. Je ne crois pas qu'il avait jamais rencontré Martin Luther King. Mais il commençait d'avoir, ça venait de l'église, des actions, des mouvements, et des pasteurs étaient très actifs, mais moi, je n'avais pas le droit de suivre, parce que mon père me trouvait trop jeune, et aussi, c'était dangereux. Et quelque part, je dis, voilà, il faut que je me trouve en moi le moyen de combattre la peur en moi. Et c'est là que je travaille toute ma vie. Et je dis, pas seulement contre la peur, mais de remplacer l'amour à la place de la peur. Et bon, c'est pas toujours facile. Il y a des moments où c'est très difficile. Je crois que c'est une époque vraiment complexe et difficile, et on en a besoin plus que jamais de plus d'amour.
Barbara Hendricks, quand vous avez 10 ans, vous chantiez déjà à l'église, à l'école, mais au fond, vous n'étiez pas destinée dans votre esprit à exploiter ce talent naissant. Vous étiez plutôt du côté des mathématiques, voire de la chimie un peu plus tard. C'est-à-dire que ce que l'on imagine chez vous d'être une carrière évidente ne l'était absolument pas. Comment cette théorie des cordes dont vous parlez, qui est celle de la vibration, est arrivée à s'installer entre les mathématiques et le chant? Dans votre tête, comment ça s'est fabriqué tout ça, à l'âge de 10-12 ans?
Ah oui, bon, à cet âge-là, je faisais des choses parce que j'aimais. Moi, j'aimais les mathématiques, parce que aussi dans mon recherche pour cette vérité, à cet âge-là, la mathématique présentait des choses sûres.
Rationnelles.
Oui, 2 plus 2.
Ça fait 4.
Et, ouais, exactement. Mais plus tard, j'ai compris les complexités qui, si on les fait, ce n'est pas vrai dans tous les cas. Mais bon, à cet âge-là, et j'avais besoin de cette certitude. Et j'aimais ça. Par exemple, j'aimais beaucoup la grammaire. D'étudier la grammaire. Et on avait à l'époque, je ne sais pas si vous avez fait ça en français, quelque chose qu'on a fait, un diagramme de grammaire. On avait une ligne, on avait le sujet, après le verbe, l'objet.
Et le complément.
Oui, c'était tout un diagramme. J'adorais faire ça. Il avait des certitudes dont j'avais besoin d'avoir dans ma vie, de savoir qui. Et ça m'intéressait beaucoup. Mais aussi, c'était très important pour moi de garder une certaine indépendance de pensée. Mais, je dis, mais pour pouvoir que ça marche en classe, peut-être je ne vais pas juste le dire chaque fois des choses que je pense. et aussi d'être bon élève m'a donné aussi la possibilité de garder une certaine liberté. Parce que tous les critères, j'étais bien, j'étudiais, j'ai eu des bonnes notes. Mais là, j'ai été libre de penser, de laisser ma raison, de moi, de décider ce que je trouvais la vérité, ce que je sentais la vérité. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu depuis assez jeune.
Vous aviez conscience de cette supériorité scolaire, disons, dans quasiment tous les domaines. Quand on regarde un peu le travail que vous avez fait à l'école, vous êtes à peu près bonne partout.
Oh, j'ai travaillé beaucoup. Il faut dire que j'ai...
Mais les mathématiques, c'est aussi une prédisposition.
Oh, je ne sais pas. Oui, j'essaie d'expliquer ça à mes enfants, de les montrer que la beauté des maths. Mais
ça
ne marchait pas. Bon, pour moi, c'était un peu évident. Évident dans le sens que je dis, quand j'ai compris, je dis, ah, mais c'est magnifique, ça. Mais je travaille, je n'ai jamais travaillé. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais l'impression que si je n'avais pas travaillé, tout le monde allait savoir. Je dis, elle n'a pas travaillé. Je crois que souvent, quand les journalistes me demandent si j'ai le trac, je dis non, je n'ai jamais eu le trac. Je suis bien préparée. Quand je suis un peu nerveuse sur scène, c'est parce que moi, je pense que je n'ai pas assez travaillé. En plus, j'étais pas le meilleur. Il avait toujours quelqu'un qui avait des notes les meilleures que moi, mais j'étais très haut dans ma classe. Mais je travaillais beaucoup, mais aussi avec plaisir.
Vous
j'aimais ça.
J'aimais
ça et j'aimais de fait que moi, j'étais capable de discipliner moi-même. Je n'avais pas besoin que la discipline venait d'ailleurs.
Comment vous faites dans votre tête ce lien entre mathématiques et musique ? Revenons sur ce point psychologique important. Vous dites souvent, mais aussi vous faites une métaphore autour, la musique ça aide, ça contourne le cerveau arrogant. Quand vous dites ça, on a l'impression que le cerveau est rempli de choses qui n'ont pas forcément de l'importance pour tout, surtout pour l'amour. Mais en même temps, vous lui donnez une vertu à cette musique. Elle vient contrecarrer une certaine forme de rationalité.
Oui, donc, on a besoin de notre cerveau pour faire des choses qu'on fait, conduire une voiture, des choses compliquées qu'on fait dans la vie, on a besoin. Mais ce n'est pas tout. Je ne dis pas du tout que le cerveau est mauvais, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un cérébral qui veut faire des études, des choses. Mais il faut pas oublier qu'il a aussi le cœur. Et c'est là où vient la musique, parce que la musique a la force de dépasser ce cerveau et entrer directement dans le cœur. Bon, je crois que là, c'est là où réside vraiment la petite voix qui nous guide, en tout cas pour moi, dans mon cas, qui me guide. Ah, et en chantant, j'essaie de faire en sorte que mes vibrations en moi donnent à la musique ce pouvoir de passer de la scène au cœur dans le public.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Michel Dian avec Barbara Hendricks. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yves Lehors, réalisation Jean-Christophe Francis, coordination Bellindola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.